Je commence par vous remercier Élise et Isabelle pour ce colloque qui est tellement riche. Plein de choses depuis hier, du mal à dormir, plein d'idées qui viennent dans tous les sens, des moments de bonheur. Je constate qu'on a un chantier en face, du coup je l'ai regardé en me demandant est-ce que c'est un condo. Bref, tout est changé dans ma vie. mais je reviens à mon sujet qui était... qui partait d'un corpus, en fait, l'origine de cette présentation. C'est un corpus de 5 textes écrits sur 25 ans, qui ont tous des points communs que j'ai trouvé assez intéressants. Et à partir de ce corpus, je voudrais vraiment essayer de poser des questions, de réfléchir à comment faire pour appréhender par l'écriture le terrain vague. De quel texte s'agit-il ? De 5 hommes. Seulement des hommes, une photographe seulement, mais quand on lui demande si elle veut participer au projet, elle répond « Je suis ton homme ». 5 hommes, français, parisiens, sauf un qui vient de Poitiers, en tout cas citadins, décident de marcher, d'expérimenter le réel, de se vraiment contraindre aux aspérités du quotidien, du sol, de la marche, dans tout ce qu'elle a de fatigante. Le fait que ce soit une marche est très important pour eux. Décident de marcher dans un lieu commun aussi à tous ces corpus, qui est non pas Paris, mais la banlieue parisienne. Donc pour ceux qui sont familiers à la géographie, on en reviendra des lieux. On a le centre parisien qui est extrêmement connu, codifié, représenté, qui s'opposera à cette grande masse de la banlieue. Donc ces hommes décident de marcher dans la banlieue, dans un moment donné, de faire ce trajet à pied. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont donc pour la plupart parisiens, en tout cas habitent à Paris, ils connaissent très bien Paris. Donc leur travail est toujours un travail... qui nécessite un renversement critique. Ils décident de voyager, ils vont à l'hôtel, et donc il va falloir transformer leur regard sur les lieux qu'ils traversent, parce que les lieux sont proches de chez eux, mais deviennent étrangers. Il y a certains de ces auteurs qui sont accompagnés d'un photographe. Je présente ici cette première photo, dans le premier document iconographique, une photo d'un photographe qui s'appelle Valerio Vincenzio et qui présente de façon assez claire les oppositions qui sont à jour dans ces textes. Oppositions entre des espaces, ici on a le minéral, le végétal, les couleurs qui s'opposent, mais surtout la densité incroyable de la zone urbaine avec tout ce qu'elle représente de capital culturel, symbolique, ce qu'on connaît dans les médias. Opposé ici au vide du terrain vague, à cette personne anonyme qui ne fait rien, rien de productif, il n'y a pas vraiment de transcendance, ici la main de Dieu est remplacée par ce qu'il y a de plus gratuit, un cerf-volant, on est dans l'immanence. Dans l'immanence anonyme, est-ce que le terrain vague reste anonyme? Il l'est dans la photo dans sa totalité, car il s'agit de la couverture d'un des premiers livres. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a une redondance. On a le signe de Paris, donc le livre va parler d'un grand Paris. Et pourtant, on a déjà un Paris ici, un Paris qu'on identifie immédiatement, c'est la métonymie par excellence, la Tour Eiffel. Ah oui, on est en France, à Paris. Comment va-t-on pouvoir identifier le terrain vague? Qu'est-ce qu'il représente? Quel est ce terrain vague ici? C'est la banlieue dans laquelle Guy-Pierre Chaumette, donc en 2002, décide de se promener. Ici, on a la métonymie de la Tour Eiffel, elle est là. Lui va faire 3 parcours de 300 km, donc c'est fastidieux, sur les tracés d'un train qui n'existe pas encore. C'est le Grand Roissy Express qui fera le tour de cette banlieue parisienne en 3 tracés différents. Et il va, sur ces lieux qui sont voués à disparaître, chercher, découvrir, rencontrer, décrire, le terrain, les terrains vagues, les constructions en cours et les gens qui habitent ces lieux qui sont voués à disparaître. Son projet n'est pas original dans la mesure où il se situe dans la lignée d'un autre livre. Le livre, l'origine de tous ces trajets-là, c'est celui de François Maspero qui écrit en 1890 « Les passagers du Roissy Express ». Il est parisien. Éditeur extrêmement connu, il a une librairie qui fait date, qui est dans le quartier latin, c'est une personnalité intellectuelle, engagée, militante à gauche, qui a énormément voyagé, énormément écrit. Un jour, il revient de l'aéroport, il regarde la banlieue par le RER, le train qui relie la banlieue nord et la banlieue sud, il dit « mais je ne connais pas tout ça ». Donc il faut symboliquement franchir la barrière que représente ici la barrière du train, du métro, pour aller voir cet ailleurs. Et cet ailleurs, est représenté dans ce texte introductif du projet. Paris était devenu une grande surface du commerce, un Disneyland, on le retrouve, de la culture. Où était passée la vie? En banlieue. Peut-être que cette banlieue, que je ne connais pas, même si elle est toute proche, va représenter quelque chose. Le tout autour ne pouvait donc pas être un terrain vague. Et si l'expression est lancée, comme on le voyait hier dans les présentations qu'Élise nous faisait, une ville entière peut-elle être un terrain vague? Il faut que je précise ici ce que la première photo ne montrait pas, c'est que la banlieue est composée de 10 millions d'habitants, alors que Paris et Intramuros, ce n'est que 3 millions d'habitants. Donc il va effectivement s'agir ici d'une question de représentation. Qu'est-ce que ce terrain vague? Ce terrain vague, nous dit Jean Rollin, avec sa couverture, il est quand même très flou. Jean Rollin met ici en scène en 1995, son voyage dans la périphérie de Paris aussi. Et à travers cette couverture, on voit la représentation floue de zones, car l'auteur zone, qui représente les différents lieux d'habitation, ici les cités, mais en premier plan le terrain vague. Dans un projet similaire, en 2002, il lit les mémoires du maréchal Ney, qui est un célèbre maréchal qui accompagnait les guerres napoléoniennes, donc grand moment épique de l'histoire de France. Mais il décide de lire les mémoires du maréchal Ney aux alentours du périphérique et du boulevard Ney à Paris, qui est un quartier extrêmement hétéroclite, avec énormément de chantiers, d'aires d'autoroutes, de terrains vagues, de zones d'habitation dangereuses, de zones d'habitation rénovées. Et ici, on voit au centre ce terrain vague qui s'oppose à la lumière du parc aménagé dans la rectitude, hein, dont l'utilisation sera bientôt pensée et faite en plein jour, et la lumière aussi des habitations qui sont derrière. Qu'est-ce qui se passe dans ce terrain vague? Est-il vide? Est-il plein? Jean Rollin va explorer tout ça. J'ai oublié de préciser que Maspero a fait son voyage sur 30 jours. Il ne rentre jamais chez lui. Il change d'hôtel tous les jours. Il fait des petits parcours de RER, une station par jour, mais les stations sont très courtes, donc globalement, il se perd autour des stations. Jean Rollin, lui, pendant plusieurs mois, habite à l'hôtel aussi, alors qu'il est parisien, donc il se défamiliarise des lieux autour de lui. Et pareil, dans la clôture, il y a une espèce de mouvement de perdition du corps dans un lieu qui aurait pu être a priori familier. Donc il pousse l'expérience physique, l'expérience du voyage jusqu'à ses retranchements, jusqu'à tous les aspects logiques. Tous les textes que j'ai évoqués, quatre pour l'instant, sont vraiment des textes qui portent une attention très pointue, qui portent beaucoup d'attention, si pour le dire autrement, à ce qui compose l'espace. Ces hommes marchent, évidemment, on a beaucoup de vocabulaire sur les directions, ils vont à gauche, ils vont à droite, mais ils accordent aussi beaucoup d'attention à ce qui compose l'espace au sein de leur marche, les sons, les altérations du paysage parce que la fatigue les empêche de distinguer les choses, les lignes de niveau, la rue s'élève, c'est plus fatigant de monter, c'est plus fatigant de descendre, c'est plus simple de descendre, etc. Donc il y a une attention géographique vraiment dans le texte, mais certains critiques ont pu parler surtout de Maspero, de géographie humaine, car au fur et à mesure que ces auteurs voyagent, ils rencontrent énormément de gens, et il y a une polyphonie permanente du texte, une volonté de mettre en scène les habitants, les usagers, on verra plus en détail de qui il s'agit, que Maspero, comme Rollin ou comme Chaumette ont pu rencontrer. Ce qui va distinguer un peu ces quatre projets du dernier projet, celui de Philippe Basset en 2007, qui est un projet très intéressant. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais commencé par vous poser une question qui est de savoir si vous deviez faire une carte, comment est-ce que vous représenteriez ça? Le projet de Philippe Basset est un projet opposé. Il regarde des cartes et ce qu'il voit, c'est ça, ce vide insupportable. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il a deux optiques. Une première optique qui est l'optique de l'enfant qui se dit « il doit y avoir quelque chose de merveilleux. Si on me le cache, c'est que j'ai un trésor ». Mais aussi une forme d'optique que j'appellerais paranoïaque, le mot est trop fort, il se dit, il y a forcément, on me cache quelque chose, et je ne supporte pas cette impossibilité de savoir, donc j'y vais. Une forme de redondance aussi, qu'est-ce qu'il y a dans le blanc de la carte? il y a des terrains vagues le plus souvent. Donc, vide toujours, blanc, comme dans nos textes précédents, c'est le terrain vague qui est à l'origine d'une démarche, à l'origine d'un voyage. Que ce soit le terrain vague de la banlieue ou le blanc de la carte ici, il y a une absence que je veux combler. Et le texte devra se faire probablement le compte-rendu de cette absence. Une fois que j'ai présenté tous ces textes, il est temps d'essayer une forme de synthèse. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est qu'à travers tous ces projets, se dessine, j'espère avoir réussi à vous en donner une idée, mais se dessine l'idée vraiment de la confrontation paradoxale du tout et du plein. Est-ce que c'est vide, est-ce que c'est plein? Si c'est plein, comment je pense ce plein? Comment je l'écris? Si c'est vide, pareil, est-ce que je peux représenter ce vide? Et par extension, cette question de l'écriture me semblait intéressante. Je n'ai pas compté combien il y a de terrains vagues qui apparaissent dans les textes. Je pense ne pas être loin de la centaine. À force d'aller y voir, comme ils me disent, à force d'être confronté à tous ces terrains vagues, est-ce qu'il est possible d'imaginer qu'il soit plein ou vide un terrain vague idéal? Est-ce qu'il y a une idée possible du terrain vague? Que ce soit peut-être en termes politiques ou en termes poétiques? C'est la question ouverte à laquelle je vais essayer non pas de répondre, parce que je vous pose vraiment la question, mais peut-être d'apporter un élément de réponse, après avoir vu quelques gouttes. En utilisant un axe particulier qui est l'axe de la criminalité. Et on en a parlé, elle est un peu omniprésente. Si je reprends hier, je me rappelle cette présentation très intéressante sur la sémiologie du terrain vague dans les livres d'enfants. On a entendu parler de Gaboriau, qui est l'ancêtre du roman policier français. Il y a un roman de Gaboriau où la scène du crime est cartographiée dans le livre. C'est une des premières occurrences d'une vraie carte dans un livre. Et à la place de l'indication scène du crime, c'est marqué terrain vague. On est dans le décor. Le terrain vague, c'est le lieu où il y a un vide, le vide de l'ordre. Et forcément, le lieu propice à s'il y a une action, ce sera un crime. C'est ce qu'on va trouver de façon différente chez Balzac, comme chez Zola, comme chez Hugo, une espèce de représentation parfois poétique idéalisée, mais en tout cas surtout une représentation de la dangerosité de ces lieux qui échappent au regard de la loi et à l'ordre. Est-ce qu'il y a un crime dans mes textes? J'étais contente d'en trouver un. Un seul, dans Zone. Il y a beaucoup de références au danger que certains terrains vagues peuvent représenter, mais un seul vrai crime. Dans la nuit du 21 au 22 novembre 1999, Ginka Trifonova, dont on apprend dans une autre occurrence qu'elle était prostituée, reçoit un grand nombre de coups de couteau. J'ai l'impression que je vais arriver dans le dramatique. Elle est retrouvée morte dans la matinée par un employé de la ville de Paris, ou selon d'autres sources, Jean Rollin, qui est donc l'auteur, va au café et écoute. Donc ces sources sont subversives. Selon d'autres sources, pas une nommée, par une dame du quartier venue ravitailler les chats errants sur le talus qui borde la rue de la Clôture, qui est donc le périmètre d'action qu'il s'est octroyé. Ce que je trouvais intéressant, c'est la suite de la phrase. Donc le sujet de la phrase, pour l'instant, était Ginka Trifonova, pardon. Là où elle, c'est mon sujet pour l'instant, je pense qu'il va continuer à parler d'elle, pas du tout. Elle surplombe de plusieurs mètres les voies de la gare de l'Est. J'attendais un crime, j'attendais quelque chose et j'ai le renseignement sur une ligne de niveau du terrain vague où le corps est trouvé. Et cette forme de glissement se retrouve en fait dans tout le texte. C'est-à-dire que ce qui intéresse l'auteur, ce n'est pas le crime, finalement on ne saura rien dessus. Mais peut-être de garder l'idée du crime parce que dans ce terrain vague, qui est le lieu important, il y a d'autres crimes. Et c'est une petite remarque sur le fait qu'il va s'intéresser non pas au crime lui-même, mais à la manière dont le crime va affecter les personnes qui vivent sur le terrain vague. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette autre image de cadavre. On remarque dans un terrain vague, donc une découverte à la porte de Saint-Denis, on remarque une demi-douzaine de corps allongés à même le sol, déchaussés, environnés de sacs plastiques, comme rompus, désarticulés par la misère. C'est-à-dire que, oui, Zhinka Trifonova est victime d'un crime, mais ce crime n'intéresse pas l'auteur. Pourtant, ça aurait pu être croustillant. Les médias me parlent toujours de la criminalité qui est dans ces zones-là. Ce qui intéresse l'auteur, c'est le crime de la misère. C'est-à-dire le moment où, dans ce lieu qui est excentré, qui est intermédiaire, qui est interstitiel, dans ce lieu se retranche non pas ce qu'il cherchait, c'est-à-dire une forme de découverte, d'espace nouveau pour son imagination, pour son écriture. Ce qu'il découvre, c'est véritablement la réalité de corps détruits qui incarne le dysfonctionnement d'une société qui repousse dans ses marges et garde dans ses marges les personnes. Philippe Basset, donc ici c'est une des images de Terrain Vague, Philippe Basset se pose la question et se révolte de sa propre naïveté, comme il dit. Il dit au début de son livre, donc, alors qu'il est en train d'explorer les zones blanches de la ville, « À peine entamée, mon expédition s'éloignait du chemin tracé. En lieu et place des mystères espérés, je ne trouvais qu'une misère odieuse et anachronique. » Ma naïveté m'exaspérait. Et un peu comme dans la lettre volée, où finalement la lettre était là, mais n'était pas vue, ici, l'auteur, comme une forme de détective, découvre que le crime était devant lui. Soudain dévoilé, cette misère invisible emplissait tout mon champ de vision et modifiait mon point de vue sur la ville. Esthète, géographe, géographie parallèle, le réel devient un ensemble d'indices, comme dans le roman policier, mais un indice détourné qui est là pour désigner la misère qui y est. Autant d'indices ici, brusquement, je ne voyais plus que les ballots de vêtements accrochés aux arbres, près de la gare de l'Est, les abris aménagés le long de la Seine dans les locaux inusités de la brigade fluviale, etc. Et les huttes de carton construites sur l'accotement du périphérique. Donc s'il y a criminalité, il y a une forme de glissement vers une image d'un crime symbolique, social, économique, politique. Mais ce que je trouve intéressant ici, c'est que cette forme de violence pose problème par rapport au projet. Comment regarder cette ville si ce que je découvre, c'est ce qui est pour moi la misère, l'horreur, ce pourquoi mes valeurs, ce contre quoi mes valeurs, pardon, aimeraient lutter. Est-ce que, et là j'ai une vraie question qui est dans les textes, qui est une forme de position d'entre-deux de mes cinq auteurs. Cette question traverse les cinq textes, car ce qu'ils découvrent n'est pas forcément ce qu'ils auraient aimé découvrir. Dans le projet d'aller en banlieue, il y a un projet politique contextualisé qui est lié à ce qui se passe en France avec l'avènement du Front National. C'était surtout ce qui se passait lorsque Maspero a commencé son projet contre les politiques populistes qui englobent la banlieue comme étant une zone dangereuse. Fox News a parlé des no-go zones pour parler de la France il y a quelque temps, de Paris. Il y a l'idée qu'il faut aller voir pour montrer que ce n'est pas comme ça. Oui, mais voir pose problème, bah, car il y a quand même des moments où la société arrive à une aporie que le terrain vague va incarner. Du coup, la nature même du terrain vague devient problématique. Le terrain vague est éphémère. Ça, c'est sûr. Le terrain vague va être construit, reconstruit. Il est un intermédiaire entre deux étapes d'utilisation du terrain. La misère, elle, n'est pas éphémère. Et donc, ce que font tous les textes, même s'ils ne décrivent pas ces cadavres ou ces hommes déshumanisés, ces personnes déshumanisées, c'est qu'ils vont s'attacher à la mobilité de ceux qui n'arrivent pas exactement à nommer non plus. On a un problème de vocabulaire. Les personnes qu'ils rencontrent sont les usagers des terrains vagues, les habitants des terrains vagues. On parle de pionniers, de nouvelles colonies. Pour les terrains vagues, ils sont délogés, relogés, ils se poussent, ils sont inaccessibles. Dans le livre de Pierre Guichomet, on parle surtout des Roms, des campements de Roms, auxquels ils n'arrivent pas du tout à avoir accès. Donc il y a tout d'un coup une population, effectivement une ville qui n'était pas la ville qu'on attendait, une ville inattendue, qui se retrouve dans ces interstices-là, qui n'est pas éphémère, mais dont la lutte permanente, c'est celle d'une accession à la stabilité. Justement, ils sont dans un terrain vague, alors même que le terrain vague est du côté de l'éphémère. Donc mes auteurs, je les appelle mes parce qu'à force de passer du temps avec eux, c'est affectif, pas possessif. Mes auteurs, à mon avis, se trouvent devant un nœud qu'ils n'arrivent pas toujours à dénouer. Parce que, quand même, malgré toute leur bonne volonté, ils sont parisiens. Ils sont libres de voyager, de marcher. Ils prennent cette décision-là. Leur projet est passionnant, mais leur projet, tout humain qu'il soit, n'est qu'un passage. Que faire vis-à-vis de ça? Est-ce qu'il n'y a pas dans tous ces textes un impensé terrible qui est celui de l'engagement, de l'action? On parlait de plein, de vide. Ici, ce vide du terrain vague débouche sur un plein extrêmement chargé qui va interroger la question de l'engagement de l'auteur. De façon poétique, au sens technique, ce qui m'a frappée, c'était... Alors, avant de parler de la poétique, peut-être une dernière parenthèse sur cette question de l'engagement, c'est que la mise en scène de l'auteur dans le texte joue justement sur une certaine ambiguïté. De façon récurrente, les usagers, les habitants, les hommes qu'ils rencontrent dans les terrains vagues les prennent pour des policiers. Et ça, c'est terrible. Ils ne veulent pas qu'on les prenne pour des policiers. Un homme blanc, bien habillé, même s'il est en t-shirt, qui marche, peut-être avec un appareil photo, c'est forcément quelqu'un qui est dans une relation à la légalité autre que ceux qui habitent là-bas. Donc les auteurs, de façon assez amusante et très souvent... je suis partie en arrière. Vont jouer sur l'illégalité de leur démarche. La transgression de la clôture du terrain vague est absolument un leitmotiv du texte. La transgression de la clôture devient un rituel habituel, une forme de cérémonie, sous toutes les formes. Donc on a même des conseils, une règle de base dans l'accomplissement d'une infraction, au retour, ne pas emprunter le même chemin qu'à l'aller. Amis au lecteur qui voudrait suivre ça. On a une forme de plaisir de la transgression. Toujours dans zone, ici, la première station, je repère au milieu d'une clôture grillagée garnie de panneaux chantier interdit au public, message est clair, un trou assez spacieux pour permettre d'enfreindre cette interdiction. Là, la phrase, en plus, elle a un beau déroulé, confortablement. D'accord ? Ce n'est pas mon fauteuil, mais quel plaisir j'ai à passer de l'autre côté. Vasset, dans une autre citation ici, nous rassure. D'accord ? Il a fait 50 terrains vagues en un an, je pense que j'ai oublié de vous le préciser. Donc il en a vu beaucoup. Une fois seulement il a été bloqué, il existe immanquablement un moyen pour rentrer facilement. Et on peut toujours rentrer dans un terrain vague. D'accord ? Ne pas vous décourager. Et dans le piéton du Grand Paris, on a deux pages qui sont extrêmement à la fois drôles et intéressantes sur la manière dont tout Paris, dans toute la banlieue parisienne, est absolument rempli de grillages. Notamment les marques, les modèles Axis et Axor, qui sont deux modèles spécifiques. Et il dit, on déplore l'uniformisation des habitudes culinaires, le clonage des zones pavillonnaires, la mondialisation des codes vestimentaires. Mais on ne parle pas assez de la prolifération d'Axis et Axor. Donc il se place de façon ludique, ou non ludique dans d'autres passages, comme transgresseur de codes, mais codes qu'ils incarnent eux-mêmes paradoxalement. Donc j'en reviens à ma poétique, ma question poétique. Idéal du terrain vague, ça fonctionne difficilement. Il y a quelques hétérotopies dans les textes, à peu près une par ouvrage maximum, qui se présentent comme des moments de grâce, où au centre du terrain vague, un individu va organiser une communauté qui fonctionne. Il y a du vocabulaire édénique utilisé parfois. On parle de cerisiers qui font des fleurs, les renards, la biodiversité. Mais ce n'est jamais vraiment satisfaisant, d'autant plus que la description de la misère dans d'autres occurrences rendrait problématique le fait d'élever en idéal des systèmes qui restent éphémères et complexes. Donc l'hétérotopie, non. Donc du coup, se pose la question, comme je le disais tout à l'heure, de leur engagement, de leur position. Et ce qui m'a frappé, c'est deux choses, et je finirai sur ces deux choses. La première, c'est que, alors qu'ils sont engagés physiquement, comme je l'ai dit, de façon permanente par leur corps, il n'y a pas d'investissement subjectif dans le texte de l'auteur, dans la mesure, il y a évidemment un investissement subjectif, mais ils ne se laissent pas le droit à l'imagination. Il n'y a pas la pose merveilleuse, il n'y a pas de métaphore, pas de métaphorisation des terrains vagues. Le réalisme l'emporte. Ici, j'ai une citation de Vasset que je trouvais importante. Est-ce que c'est celle-là ? Non, c'est pas celle-là. Bon, je ne l'ai pas. Pas grave. Il y a ce qu'ils appellent un excès de réel.
Le deuxième.
C'est le deuxième. Oui, merci. C'était dans les endroits où la réalité excéderait le texte que je voulais me tenir le plus longtemps possible, regardant les phrases gigoter en tous sens comme des poissons fraîchement capturés. Ici, j'ai une métaphore. Mais dans la description du texte lui-même, dans ce moment d'excès du réel, j'ai surtout des énumérations. C'est-à-dire des mises à plat des éléments indistincts, rendus indistincts par le pluriel et qui ne correspondent pas à un agencement, à un paysage, un agencement organisé, centralisé, avec une sortie magnifique sur tout ce que ce terrain vague pourrait avoir d'évocateur. Il y a une forme de réel qui domine et auquel on se soumet tout en essayant d'en rendre compte par différents espaces. Et donc, dernier point ici, c'est que ça me semblait intéressant de comparer ça avec les travaux de Gilles Clément, qui cette fois-ci est dans un autre domaine, puisque c'est celui qui participe à cette mutation incroyable dans l'art du jardin. Pour lui, le jardinier, c'est celui qui tue, qui coupe, qui contrôle, qui met des pesticides, alors qu'il aimerait revenir à un jardin qui est ce qu'il appelle en mouvement, où les énergies en présence, les croissances, les luttes, le déplacement, les échanges, qui sont des mots qu'on retrouve dans la mobilité toute critique des gens du terrain vague. Donc ces dynamiques-là seraient respectées par le jardinier, qui les connaît, qui les respecte, encore une fois, qui fait le plus possible avec, le moins possible contre. C'est-à-dire, c'est l'idée de la transformation par le mot qui est mise ici en problème. C'est-à-dire que je trouvais que cette image, qu'on pourrait compléter aussi par des textes du tiers paysage, c'est-à-dire de définition de la friche par Gilles Clément, cette image du jardinier va marcher de façon métaphorique pour décrire l'entre-deux dans lequel mes quatre auteurs se retrouvent avec cette volonté de création et cette difficulté de s'impliquer de peur de transformer le réel, de le tuer. Et d'avoir une personne trop forte. Je voudrais finir sur, vraiment, c'est comme une cerise sur un gâteau, sur un sixième texte que je n'ai pas évoqué, qui fait la même chose que les autres. Mais il vient de Bruxelles, mais il connaît bien Paris. Il fait la Révolution, le Tour de Paris. On reconnaît, comme sur la première photo que je vous avais proposée, l'opposition entre deux espaces. La Tour Eiffel, on sait où on est. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y avait ici un champ qui remplaçait le terrain vague qui avait été choisi par Pierre Guichaumette. Ce livre est après, c'est le dernier dans la chronologie. Et ce qui m'a amusé, c'est une remarque qui n'est pas finie, c'est qu'en relisant ce livre, il n'y avait pas de terrain vague. Alors, il passe par les mêmes endroits que les autres, donc je sais qu'il y en a à l'époque où il fait son trajet, mais il n'y a pas de terrain vague. C'est-à-dire, c'est dire à quel point c'est aussi question de représentation et de choix. D'accord, de faire un terrain vague. On peut avoir une révolution de Paris qui s'occupe des pavillons, des cités, et qui laisse ce lieu qui nous intéresse tant de côté. Et vraiment pour finir, sous forme de boutade, mais parce que je trouvais que c'était une invitation intéressante, c'est un projet de Philippe Basset qui renverse la situation et qui dit, et si au lieu de s'intéresser au terrain vague, il en a assez, de toute manière tout ce qu'il essaye de faire rate, si au lieu de s'intéresser au terrain vague, on imaginait les plus beaux monuments, les monuments les plus importants pour nous, les monuments de Paris en l'occurrence, et qu'on les remplaçait par des terrains vagues, qu'est-ce que ça donnerait ? Donc ici, j'ai mis une citation courte, mais je trouvais que c'était en tout cas une idée que je trouve vraiment intéressante, d'essayer d'imaginer nos lieux les plus chargés et de les remplacer peut-être par des terrains vagues. Voilà. Merci.